Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Nous sommes en 1317. L'Angleterre se remet difficilement des malheurs qui l'ont frappée. Alors il faut y ajouter des invasions écossaises. À l'époque, le royaume d'Écosse est complètement séparé du royaume d'Angleterre. Hein. Le roi d'Écosse, qui s'appelle Robert Bruce si vous voulez, débarque, et même en Irlande, où son frère s'est fait couronner roi. Alors le mécontentement gronde chez les sujets du roi Édouard II, parce que cette fois-ci, ce n'est pas sous la coupe d'un favori qu'il se trouve, mais de trois à la fois. Je vais y revenir plus tard. En attendant, le roi et sa femme Isabelle s'entendent toujours bien. Elle assiste aux conseils royaux et au début du mois d'avril 1317, le couple royal séjourne à l'abbaye bénédictine de Ramsay, l'une des plus anciennes et des plus puissantes du royaume. Ça se trouve dans le comté de Cambridge. Le prince Édouard, l'héritier du royaume, a 4 ans. Alors il fait sa première apparition en public et puis il y a un autre petit frère derrière, Jean. Les enfants reçoivent une éducation soignée, confiée à des clercs, dont le principal est Richard de Bury. Il est prêtre, enseignant, bibliophile. Il a fait des études à l'université d'Oxford. Alors, qu'enseigne-t-il au prince? Eh bien, il leur enseigne l'écriture, la lecture, le latin, le français, l'anglais, un peu d'allemand et de flamand, mais aussi les valeurs des chevaliers de l'époque. Réunion du Parlement au palais de Westminster, le 15 avril 1317. Le roi, la reine et le petit Édouard y assistent. Enfin, quelques bonnes nouvelles. La disette recule, et puis Robert Bruce, il est reparti en Écosse. L'Irlande est remise en ordre grâce à Édouard Bruce, son frère, dont l'administration anglaise est réorganisée. Ah, on se dit alors tout va bien. Ah ben non, figurez-vous que ça ne dure pas. Les sujets d'Édouard lui font même parvenir une lettre avec tous leurs griefs. Le roi n'écoute pas du tout les plaintes de ses sujets. Il est occupé à vouloir se réconcilier avec son cousin Lancastre. Une rencontre est prévue le 18 juillet à Nottingham. Eh bien, Lancastre ne vient pas parce qu'il se dit « si j'y vais, je vais me faire tuer ». Édouard II, donc Isabelle, l'attendent pendant 3 semaines. Pour le roi, c'est une véritable humiliation. Enfin, en octobre 1317, la rencontre a lieu et le comte prête serment de fidélité. Oui, mais la situation finalement reste tendue et lorsque le roi et la reine en route pour Londres passent devant la principale forteresse de Lancastre, la garnison du château se met à injurier le roi. Édouard II est évidemment furieux et l'un de ses favoris, Roger d'Amary, propose d'attaquer le château. Alors là, c'est complètement irréaliste parce qu'il faudrait une véritable armée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de favoris. Eh bien, Édouard est tombé sous la coupe de jeunes ambitieux. Ils sont 3, Hugues Audley, Roger d'Amary et Hugues Despenser. Le sage et prudent comte de Pembroke voit en Roger d'Amory un nouveau Gaveston, vous rappelez celui qui a été tué, tout aussi périlleux pour le pouvoir royal. La nature des relations entre les 3 hommes et Édouard est encore une source de spéculation. On ne sait pas s'il s'agit de fidélité, d'amitié ou plus. Le 11 juin 1318, la reine se retire dans son manoir de chasse de Woodstock. Elle y met au monde une fille prénommée Éléonore, comme la mère d'Édouard II. Elle est élevée auprès de ses frères. Nouvelle réunion du Parlement, le 28 juin 1318. Le pays est au bord de la guerre civile. Les partisans du roi se présentent, ils s'y présentent en armes. Alors Lancastre refuse d'y paraître, parce qu'il dit s'ils sont en armes, simplement ils vont m'attaquer. La querelle interminable du roi avec le comte de Lancastre qui déchire le royaume au moment même où il y a des raids écossais qui se font de plus en plus dévastateurs, eh bien, cette querelle ne fait que souligner la différence d'avec le règne de son glorieux père, Édouard Ier, le père a bien mieux gouverné l'Angleterre que ne le fait son fils. Ses conseillers les plus modérés le pressent de trouver un terrain d'entente avec Lancastre. Ce dernier n'est pas enthousiasmé du tout. Il commence par demander que le roi se débarrasse de ses favoris. Que fait le roi, à votre avis ? Il refuse. La reine intervient, une ambassade de nobles et d'évêques aussi. Lancastre fléchit, Édouard II accorde son pardon et promet de respecter les ordonnances. Ce traité évite la guerre civile et les favoris sont chassés. Parmi les nobles qui ont assisté à la conclusion du traité se trouve Roger Mortimer, qui va prendre de plus en plus d'importance. Pas comme favori du roi, hein. On va voir de quel côté il va se mettre. En décembre 1318, il rencontre avec son oncle l'évêque de Hereford, Adam Orleton, un homme d'une intelligence supérieure, tout à fait hostile au gouvernement d'Édouard et ami personnel du pape Jean XXII. Oui, parce qu'à l'époque, le pape s'occupe beaucoup des affaires des royaumes. Ces deux hommes, Mortimer et Orleton, vont jouer un rôle essentiel dans la destinée de la reine. Mortimer, alors, se construit un réseau politico-militaire dans les marches parce qu'il pense que le nouveau favori du roi, Hugh de Spencer, alors on va le dispenser, on va le différencier, on va dire Despenser le jeune, parce que le père était favori avant lui. Alors ce dernier, la Despenser, il compte bien se bâtir une fortune. Tout d'abord, il épouse la nièce d'Édouard II, c'est pratique. Hein. Il entre ainsi dans la famille royale par alliance. Alors, vous vous rappelez que Gaveston, il essayait de s'enrichir. Mais celui-ci, là, Despenser, il est encore plus rapace et plus sournois que Gaveston. Il contrôle l'accès au roi. Si quelqu'un veut voir le roi, il doit d'abord payer grassement Despenser. Désormais, le gouvernement du royaume est sous la coupe des Despenser, père et fils, dont l'avarice devient légendaire dans le pays. Nous allons faire une première pause musicale. Nous sommes sur Radio Rentiel. Je vous raconte la vie d'Isabelle de France, fille de Philippe IV le Bel. Elle est mariée au roi d'Angleterre, Édouard II, qui est un triste roi, incapable de se gouverner tout seul, il est toujours sous la coupe de favoris. Et là, ce sont les Despenser, père et fils. Les Écossais. Je vous rappelle que le royaume d'Écosse est différent du royaume d'Angleterre. Hein. Alors, ils ont, ces Écossais, une forteresse très importante à Berwick, qui est juste au nord de l'Angleterre. Le roi décide alors d'assiéger cette forteresse. Il s'y rend avec une armée et il demande à Lancastre de l'aider, puisqu'il a pardonné à Lancastre. Ah bah oui, mais Lancastre, il ne veut pas. Pendant ce temps-là, Isabelle demeure aux alentours d'York avec ses enfants. Le siège de la forteresse s'éternise. L'un des grands chefs écossais, le comte de Douglas, décide alors de s'emparer de la reine. Il réunit 10 000 hommes et il se dirige vers le village où se trouvent la reine et les enfants. Alors heureusement, un éclaireur écossais est capturé par les hommes de l'archevêque d'York. Menacé de torture, l'homme révèle que le comte de Douglas n'est pas loin et qu'il s'apprête à venir chercher la reine. Le prélat fait alors armer les hommes, tous les gens d'York, les paysans, tout le monde, et même les prêtres. Et puis, il va voir la reine et ses enfants afin de les mettre en sûreté. Il les fait sortir de là et les envoie par voie d'eau au château de Nottingham. Si bien que lorsque les Écossais arrivent, ils se rendent compte que leur plan a échoué. Alors ils ne font qu'une bouchée de la petite armée de l'archevêque qui est restée là et ils repartent en faisant ce qu'ils font toujours les Écossais, c'est-à-dire qu'ils brûlent tout sur leur passage. Pendant ce temps-là, où est le roi ? Eh bien, il est toujours sous les murs de la forteresse de Berwick. Et il n'apprend la nouvelle de l'enlèvement raté que 5 jours plus tard. Alors, il abandonne son armée, il va le faire souvent ça, hein, pour se rendre à York, où il ne trouve pas sa femme, bien sûr, puisqu'elle est déjà arrivée à Nottingham. L'affaire fait grand bruit en Angleterre. Tous louent le courage de la reine et blâment l'inconséquence du roi. Cependant, les nobles n'osent pas accuser le roi et retournent leur colère contre qui ? Contre le nouveau favori. Le comte de Lancastre et les barons accusent Hugh Despenser le jeune d'avoir trahi l'Angleterre et la reine, mais les Despenser, eux, ils renvoient la responsabilité de cette affaire sur Lancastre. En fait, on pense que Lancastre a été payé par Robert Bruce, le roi d'Écosse, donc, pour aider et faire en sorte que la forteresse de Berwick ne tombe pas entre les mains des Anglais. Lancastre se retire alors dans son château de Portefact. Il est de nouveau l'ennemi du roi. Édouard et Isabelle passent le 1er janvier 1320 à York, dans l'attente de l'ouverture du Parlement qui est prévue pour le 20 janvier 1320. Lancastre refuse de s'y présenter, toujours la peur de se faire tuer. De nouveau, l'Angleterre est au bord de la guerre civile. Alors en attendant, il faut qu'Édouard vienne en France. Et pourquoi donc ? Vous vous rappelez que les Plantagenets anglais possèdent en France la Gascogne. Donc ils sont à ce moment-là vassaux du roi de France. Et ils doivent prêter serment au roi de France. Donc ils s'embarquent avec la reine, avec ses deux favoris. D'Amaury, dont l'étoile pâlit d'ailleurs, et Hugh Despenser, dont l'étoile, au contraire, monte. Le 28 juin, Édouard prête hommage en tant que vassal au roi de France dans la cathédrale de Reims. Puis le couple rentre en Angleterre. Les grands du royaume voient avec colère l'ascension de la famille Despenser et se rendent au Parlement bien décidés à faire entendre leurs revendications. Ça n'empêche pas le couple des Spencer, père et fils, de continuer à dominer le roi. Le 27 février 1321, le comte de Lancastre et les lords des Marches se rencontrent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent attaquer les terres des Spencer dans le sud du pays de Galles. Ce dernier est soutenu par le roi, bien sûr, mais pas par la reine, qui ne l'aime pas. Elle reste fidèle à son mari, bien sûr. Mais elle n'aime pas du tout ce favori. Les terres des Despenser sont alors ravagées. Alors, Édouard II convoque un parlement à Westminster pour le 15 juillet. Et au milieu de cette tourmente, Isabelle accouche d'une fille, Jeanne, le 5 juillet. Si bien qu'ils vont avoir 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. La situation est bloquée. Le roi et ses troupes sont enfermés dans Londres et encerclés par l'armée des lords avec Lancastre à leur tête. Alors la reine intervient. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande l'exil des deux des Spencer, là, et elle dit au roi, parce qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on va pouvoir maintenir la paix. Eh bien, on peut dire qu'elle vient de se faire deux ennemis. Les des Spencer sont bannis le 19 août et doivent partir en exil avant la fin du mois. Les lords, alors, ils pensent avoir gagné. Mais le roi jure qu'il les fera revenir dans moins de 6 mois et que sa vengeance sera terrible. Alors ça se finit comment cette affaire-là? Eh bien, figurez-vous que les Despenser reviennent et que Lancastre et ses troupes sont battus. Alors Lancastre, qui est quand même le cousin du roi, hein, le plus grand seigneur d'Angleterre, a droit à un procès absolument arbitraire et tout à fait expéditif. Il ne peut même pas se défendre et il est condamné à être décapité. Figurez-vous que c'est la première fois depuis Guillaume le Conquérant qu'un pair du royaume est exécuté comme traître. Et tous ses partisans le sont aussi. Édouard II a mis 10 ans à assouvir sa vengeance, parce que vous vous rappelez que c'était Lancastre qui avait fait tuer son favori, Pierre Gaveston. Lancastre devient alors aux yeux des gens un martyr. On fait même des pèlerinages sur sa tombe. Alors Édouard II semble vainqueur, bien sûr, mais il s'est placé sous une autre domination, celle de Hugh de Spencer. Ce dernier terrorise le pays, il hait la reine, l'administration est purgée et les proches des de Spencer remplacent les officiers qui ont été démis de leurs fonctions. Le roi confisque les terres de tous les opposants et les donne à qui? Aux de Spencer, bien sûr. Hugh de Spencer est un véritable rapace. Il rançonne, il persécute la veuve de Lancastre et plus d'une centaine de familles nobles anglaises perdent tout leur domaine. De Spencer le jeune se comporte comme un roi. La noblesse anglaise alors oscille entre la peur, ben oui, François, mais aussi la haine. Et à partir de ce moment, Isabelle ne va plus recevoir le moindre domaine de son mari. Vous vous rappelez qu'il lui donnait beaucoup de domaines, qu'elle était extrêmement riche. Eh bien, à cause des Spencer, c'est terminé. Le roi ne se confie plus à elle du tout, alors qu'elle était de bon conseil. Hein. C'est des Spencer qui prend toute la place. Si bien que le couple, roi et reine, ne vit plus ensemble. Le roi vit, où donc? Eh bien, il vit avec des Spencer et sa femme Éléonore. Alors, on ne sait pas trop. Les chroniqueurs disent qu'ils ne savent pas trop si c'est pour l'amour de De Spencer ou pour l'amour de sa femme. Cette dernière, d'ailleurs, reçoit tous les cadeaux qui étaient jadis destinés à la reine. Édouard reprend alors la guerre, à ce moment-là, contre qui? Toujours les mêmes, contre l'Écosse. Il n'aurait pas dû, car il se fait encore battre à plate couture et doit s'enfuir, poursuivi par le roi Robert Bruce. C'est la troisième humiliation militaire d'Édouard II. La reine est coincée dans son prieuré de Tynemouth, à l'arrière des lignes ennemies. Alors elle réussit à s'échapper par la mer, si bien que les relations entre le roi et la reine s'enveniment beaucoup. Édouard II soutient son favori et Isabelle perd peu à peu ses soutiens à la cour. Elle est en butte aux humiliations du duc de Spencer. Et ce qui n'arrange rien, ce sont de nouvelles tensions diplomatiques qui se déclarent entre la France et l'Angleterre. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Amore,
nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie d'Isabelle de France, fille de Philippe IV le Bel, mariée au roi d'Angleterre Édouard II, qui est complètement sous la coupe d'un nouveau favori, Hugues de Spencer, qui est la reine. Ben, la reine le est aussi. Alors, donc, il y a de nouvelles tensions entre la France et l'Angleterre. Ça place Isabelle dans une position difficile, bien sûr, parce qu'elle est française d'origine, mais mariée au roi d'Angleterre. Et ça encourage les Spencer à s'attaquer à elle avec encore plus de violence. Vous vous rappelez que Philippe IV étant mort, c'est son fils Philippe V qui était devenu roi, c'est-à-dire le frère d'Isabelle. Mais il est mort le 3 janvier 1329. C'est donc son dernier frère qui lui succède et qui prend le nom de Charles IV. Le nouveau roi exige de son beau-frère l'hommage dû, bien sûr, toujours pour le duché de Gascogne, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau roi en France, il faut que le roi d'Angleterre prête serment parce qu'il est le vassal du roi de France, étant donné qu'il possède la Gascogne. Alors Édouard, il ne veut pas venir. Si bien que le pape Jean XXII demande à Isabelle de jouer les médiatrices. Il y a une loi française qui permet de saisir la terre si le vassal ne vient pas prêter hommage. Alors vous pensez bien que le Parlement de Paris prononce alors la saisie du duché le 1er juillet 1324. Et l'armée de Charles IV affronte celle d'Édouard en Gascogne, puisque c'est anglais la Gascogne, donc là il y a des troupes anglaises, hein. Les Anglais sont battus, le roi et les de Spencer tirent des conclusions dramatiques pour la reine. Elle est l'ennemie, la voilà étrangère en son royaume. Et le 18 septembre 1324, sous prétexte d'un possible débarquement des Français en Angleterre, toutes les terres de la reine sont confisquées. Et le 18 novembre, Édouard demande de ne plus rien payer pour l'administration de son hôtel. Ce qu'on appelle l'hôtel de la reine, ce sont tous les gens qu'elle emploie. Tous les Français présents en Angleterre sont arrêtés. Ses trois derniers enfants lui sont enlevés. Alors que fait-elle? Eh bien, elle écrit à son frère Charles IV, le roi de France, pour lui dire qu'elle est dans la misère. Étant donné leur attitude, les de Spencer père et fils ont des opposants, bien sûr, et en particulier, un dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Roger Mortimer, qui pour l'instant est prisonnier à la Tour de Londres. Pourquoi? Parce que le roi lui a reproché toutes ses défaites militaires. Alors, grâce à des complices, Mortimer réussit à s'échapper. Il a de nombreux partisans qui lui font traverser la Manche, et avec donc lui et puis tous ceux qui sont ses amis, et ils viennent se mettre sous la protection de qui? Eh bien, bien sûr, du roi de France. Les choses vont mal en Angleterre. Même le clergé prend parti contre le roi et les de Spencer. Et en décembre 1324, le pape Jean XXII envoie deux légats à Paris afin de négocier une paix tout de même entre les deux royaumes. Il suggère une médiation de qui? De la reine Isabelle, dont on connaît les talents de diplomate. Et qu'est-ce qu'elle voit là comme occasion, Isabelle? Eh bien, pour pouvoir traiter, elle va aller en France. Édouard est d'accord, mais il exige qu'en contrepartie, Charles IV expulse Roger Mortimer et ses amis de France. Alors Isabelle prépare son voyage. L'archevêque de Canterbury obtient d'Édouard II qu'il donne quand même de l'argent à sa femme pour ses dépenses, et elle embarque le 9 mars 1325. Elle arrive à Poissy, et les pourparlers commencent aussitôt. Elle écrit de fidèles comptes rendus à son mari, quand même, parce qu'en fait, ce n'est pas contre son mari qu'elle en a, c'est contre le favori. Charles IV, pour signer une paix, exige qu'Édouard lui donne la Gascogne, puisqu'il n'est pas venu prêter hommage. Et Édouard ne la récupérera que s'il vient rendre justement hommage. Isabelle, elle veut rester en France jusqu'à ce qu'une paix définitive soit signée. Le 1er avril 1325, la reine d'Angleterre fait son entrée solennelle à Paris. Elle est reçue par de nombreux nobles français avec tous les honneurs dus à son rang. Le 5 juin, un traité est signé au déplaisir d'Édouard qui dit que c'est la faute d'Isabelle si ce traité n'est pas à son meilleur avantage. Il ordonne à la reine alors de revenir. Que pensez-vous qu'elle fasse ? Eh bien, elle n'en a pas du tout envie. Elle est reçue partout. Son frère le roi de France l'entretient. En principe, le roi d'Angleterre doit prêter hommage au roi de France à Beauvais le 29 août. Et les Despenser, père et fils, disent au roi Édouard, « N'y allez pas !» Et alors pourquoi donc ? Eh bien parce que ils ont peur de rester en Angleterre tout seuls, sans la protection du roi. Alors le roi dit au roi de France qu'il est malade et qu'il ne viendra pas. Nous allons faire une dernière pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie d'Isabelle de France, fille de Philippe IV le Bel, mariée au roi d'Angleterre Édouard II, qui doit venir en France pour prêter hommage parce qu'il possède la Gascogne et il est vassal du roi de France qui, à ce moment-là, est le dernier frère à régner de la reine Isabelle, c'est Charles IV. Eh bien, il ne veut pas venir. Si bien que, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie son fils aîné. L'héritier, hein. Alors, Édouard, lui aussi, il arrive, il rencontre sa mère, ils sont reçus par le roi de France, et le prince fait son hommage. Et pendant son séjour à Paris, Isabelle reçoit le soutien de toute la cour de France, du roi son frère, qui sont tous hostiles aux Despenser. Elle prend tous les prétextes pour rentrer en France. Alors finalement, elle a usé tous les artifices possibles, si bien qu'elle décide de rompre publiquement son union avec le roi d'Angleterre à la fin de novembre 1325. Devant son frère, le roi, elle fait une déclaration à la cour et elle se présente non pas comme une femme qui a abandonné son mari, et Édouard II l'accuse de ça bien sûr, mais comme une épouse qui déplore la perte de son mari et la pratique de la vie commune empêchée par un tiers, Despenser bien sûr. Elle écrit à son mari qu'elle et le prince ne reviendront pas en Angleterre tant que les Despenser ne seront pas chassés de son entourage, soit par sa volonté, soit par la force. Et le prince ajoute, l'héritier donc, qu'il restera en France tant que sa mère, la reine, y restera aussi. Réaction d'Édouard II. Il est furieux. Il proclame que s'ils ne reviennent pas immédiatement, ils seront considérés comme les ennemis du royaume. Alors, il y en a un qui soutient Isabelle, toujours, c'est Roger Mortimer, qui vit pour l'instant dans le Hainaut. Tous les deux veulent se venger des Despenser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, un plan d'invasion de l'Angleterre se prépare entre tous les amis de Mortimer et ceux de la reine. Isabelle écrit à son mari, disant qu'elle veut bien venir, toujours la même chose, si Despenser s'en va. Ce dernier entre en fureur, Despenser, et menace carrément de tuer la reine. Édouard condamne alors publiquement sa femme et Mortimer. Et comme toujours, qui est-ce qui essaye d'arranger les choses? C'est le pape, Jean XXII. Édouard écrit alors à Charles IV de renvoyer sa femme et son fils. Et en plus, il demande au pape d'annuler son mariage. Alors là, c'est complètement raté. Si bien que Édouard déclare la guerre à Charles IV et donne l'ordre d'attaquer les bateaux français dans la Manche et d'arrêter tous les Français qui sont restés en Angleterre. Alors finalement, Isabelle va se réfugier avec son fils et Mortimer dans les terres d'Empire, c'est-à-dire ce qui correspond à peu près au Hainaut actuel. Charles IV l'a aidé et il fait diversion en envoyant une flotte en Normandie pour faire croire à Édouard que l'invasion va partir de là. Isabelle et le comte de Hainaut rassemblent alors une armée et une flotte. Le 12 septembre 1326, ignorant le lieu du débarquement, Édouard II envoie un escadron sur la côte nord-est du Norfolk et un autre à l'embouchure de la Tamise. Et il s'installe avec les Despenser à la tour de Londres, en sûreté, dit-il, pour attendre l'invasion menée par sa femme et son fils. Vous remarquerez qu'il ne se porte pas à la tête d'une armée pour lutter contre eux. Il se sauve. L'armée d'Isabelle et de son fils débarque près des domaines du comte de Norfolk, qui la rejoint. Isabelle écrit aux citoyens de Londres et des grandes villes pour qu'ils la rejoignent et dans ses lettres, elle se présente comme une justicière venue venger la mort du comte de Lancastre et chasser les Despenser du royaume. La nouvelle du débarquement s'est répandue rapidement. On peut dire que, 90% des Anglais se rallient à Isabelle. Le premier à se rallier, bien sûr, c'est le frère du comte de Lancastre, qui s'appelle Henri. On peut dire, pour l'armée d'Isabelle et de Mortimer, que c'est une véritable promenade militaire. Et Édouard, dans tout ça, il ordonne de lever une armée, mais il n'est pas obéi. Alors que fait-il? Comme d'habitude, il fuit. Il fuit avec les Despenser jusqu'à Bristol. Isabelle l'apprend. Alors, bien sûr, son armée se dirige par là. Le pape Jean XXII, très prudent, lui, pour une fois, il attend la suite des événements avant de se prononcer. Édouard, comme à son habitude, multiplie les lettres au pape, au roi de France, aux Londoniens, en criant à la trahison. Et se rendant compte finalement qu'il ne peut pas lutter contre l'armée de sa femme, eh bien il songe à quitter le pays de Galles par bateau. Manque de chance, une tempête s'élève et il ne peut pas partir. Alors lui et les Despenser se lancent alors dans une fuite éperdue. Et pendant ce temps, Isabelle poursuit sa marche triomphale. Elle offre même une belle somme à qui capturera, non pas son mari bien sûr, mais le jeune Despenser. Les attaques de la reine se concentrent toujours sur les mauvais conseillers, jamais contre le roi. L'aîné des Despenser est capturé, il est déféré devant un tribunal d'exception présidé par Roger Mortimer, et évidemment, il est condamné à mort et exécuté le 27 octobre 1326. Et il est où, Édouard, pendant ce temps-là? Eh bien, il quitte le château où il était réfugié, en y laissant son trésor, c'est bien. Il se cache dans l'abbaye de Nice, où il reste jusqu'au 10 novembre 1326. Il réalise alors qu'il n'est plus capable de résister et il envoie l'abbé de Nice à la reine. Cette dernière dépêche Henri de Lancastre et une force armée, pour se saisir du roi. Ce dernier alors, qu'est-ce qu'il fait comme d'habitude ? Il s'enfuit, il erre dans la campagne en compagnie du duc de Spencer. Le 16 novembre, Henri de Lancastre trouve Édouard II errant dans la lande sous une pluie battante. Il le capture ainsi que de Spencer. Ils sont envoyés enchaînés à Isabelle, qui réside à ce moment-là à Hereford. La reine fait adresser au nom du prince de Galles, son fils donc, des convocations dans toute l'Angleterre pour la tenue d'un parlement qui doit se réunir à Westminster le 14 décembre 1326. Elle tient sa vengeance. Hugh de Spencer est ramené du pays de Galles, hué tout le long de la route. Il tente de se laisser mourir de faim sur le chemin, mais il arrive à moitié mort à Hereford. La reine souhaiterait qu'Hugh le jeune soit jugé et exécuté à Londres, mais l'homme vraiment est si faible qu'on ne peut pas le conduire à Londres. Alors il est jugé sur place, on lui lit la longue liste de ses méfaits. L'accusé n'a ni le droit ni la force de répondre. Il est condamné à être pendu comme un voleur, écartelé comme un traître, décapité comme un rebelle. Exécution de tout ça. Pour fêter la déroute totale de leurs ennemis, Isabelle et Mortimer donnent alors une grande fête. Finalement, en tout, on peut dire, elle a été finalement assez bonne, j'allais dire, parce qu'il n'y aura en tout que 6 exécutions. Alors très vite, le gouvernement de la reine offre un grand nombre de pardons. Il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de confiscation de biens. Et elle commence à gouverner au nom du roi. Il est où le roi ? Ben, il est captif. Et on peut dire qu'il est quand même dans une captivité dorée. Cependant, sa personne pose un problème parce que le roi, il est sacré. Alors, elle ne veut pas le rejoindre et pourtant, lui, la réclame. Hein. Un conseil se réunit alors pour discuter du sort du royaume. Puisque les Despenser sont morts, le roi pourrait alors retrouver son trône. Seulement, il a montré quand même qu'il était incorrigible, qu'il était incapable de tenir une armée, qu'il était toujours en fuite, si bien que pas un seul noble ne veut le voir sur le trône. Alors, quelle est la solution ? Ben, la solution, c'est que le roi abdique en faveur de son fils. Il est donc convoqué à comparaître devant le Parlement le 7 janvier 1327. Une grande assemblée se réunit pour faire la liste de tout ce que l'on reproche au roi. Elle sera présentée au Parlement pour obliger Édouard à abdiquer. Eh bien, c'est fait. L'archevêque Reynolds conclut la séance en proposant que le roi soit remplacé par son fils. Et le peuple l'acclame. Une délégation va voir le roi dans sa prison pour lui lire la liste des accusations et lui dire d'abdiquer. Que fait Édouard ? Il ne peut pas se sauver parce qu'il est emprisonné. Il pleure. Il proteste. Et il refuse de céder. Bon, finalement, il est bien obligé d'accepter. Isabelle prépare alors le couronnement de son fils. Édouard III, 14 ans, est couronné et sacré le 1er février 1327. Désormais, Isabelle tient les rênes du pouvoir tout en préservant les apparences. Elle récupère aussi toutes ses possessions. Il est où, Édouard, pendant ce temps-là ? Eh bien, il est prisonnier au château de Kenilworth. Il réclame sa femme et ses enfants. Et comme elle a eu vent de complot, elle le fait déplacer dans un château plus sûr. On peut dire qu'il y est correctement traité. D'autres complots se fomentent pour les livrer Édouard. Il a encore quelques partisans. Finalement, Isabelle et Mortimer en arrivent à la conclusion que tant qu'Édouard sera vivant, ses partisans ne désarmeront pas. Donc, il faut que le roi meure. Et comment le roi est-il mort ? Alors là, les chroniqueurs ne disent pas la même chose. Certains racontent qu'il a été étouffé. Un auteur dit que le roi a été pris, qu'on lui a enfoncé un tisonnier chauffé à blanc dans le fondement. Ce serait Mortimer qui aurait ordonné le châtiment. Eh bien, c'est cette version qui prévaut à partir de 1340. On peut dire que finalement, que on ne connaît pas la réalité de l'événement. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'aucun chroniqueur n'a eu de source de première main et qu'il s'appuie surtout sur la rumeur. En tout cas, on a quand même bien les preuves que c'est Mortimer qui a décidé de la mort du roi. Isabelle, elle n'est pas complice, elle n'avait même pas été tenue au courant. Édouard est enterré à Gloucester. Désormais, la reine se consacre aux préparatifs du mariage de son fils, Édouard III, qui épouse Philippa de Hainaut. Bien que de marié, le nouveau roi ne règne pas. Qui est-ce qui règne? C'est Isabelle et Mortimer qui finalement dirigent le royaume. Et Mortimer se montre de plus en plus arrogant. Un chroniqueur remarque qu'il est plus qu'un roi. Cette attitude exaspère les nobles qui se croient revenus finalement au règne précédent. Pendant ce temps-là, Édouard III ronge son frein. Il en a assez, il a 18 ans. Il veut régner. Il en a assez de Mortimer. Il met sur pied un complot qui réussit. Mortimer est arrêté. Édouard déclare alors qu'il va gouverner seul. En attendant d'être jugé par le Parlement, Mortimer est enfermé à Londres dans la tour. Et le même jour, Édouard envoie sa mère en exil au château de Berkhamsted. Mortimer est condamné et pendu. Et pendant qu'Isabelle vit recluse, mais on peut dire avec face, son fils rétablit finalement la paix civile en Angleterre. Isabelle, elle reste très active, elle fait beaucoup de pèlerinages, mais subitement sa santé se détériore dès février 1358. Elle rend l'âme le 22 août 1358 à l'âge de 62 ans. Et selon ses dernières volontés, son corps est transporté à Londres pour y être enterré dans l'église des frères mineurs. Au revoir à tous.